Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Babel Pongo Masimango.
Madame et Monsieur, bienvenue à cette édition du journal. Nous serons au Kwilu. Une maladie non encore identifiée est tue dans plusieurs villages de Karadan au Bungu. 14 morts en 19 jours seulement, selon le député national Jacques Ilunga Openi. Parmi les symptômes des vomissements, de maux de tête et de ventre, il appelle le ministère de la Santé à agir. C'est le jour J. La session ordinaire de l'examen d'État 2026 a démarré ce matin pour les finalistes du secondaire. La ministre de l'Éducation nationale invite les candidats à aborder ces examens avec sérénité, confiance et intégrité. Nous reparlerons aussi de l'examen d'État avec notre invité Hubert Kimbonza, inspecteur général à l'Éducation nationale. Éventuelle révision au changement constitutionnel, la Cinco dit non. Pour les évêques catholiques, tout ceci n'est pas opportun dans le contexte sécuritaire et politique actuel. Il propose à la place le dialogue, ce qui n'est pas de l'avis du député national Joseph Coy de l'Union Sacrée. Il estime, lui, qu'il n'appartient pas à la Cinco d'apprécier l'opportunité ou l'urgence des réformes constitutionnelles. Madame, Monsieur, bonjour. 14 morts en 19 jours seulement, cela suite à une maladie non encore identifiée qui sévit dans plusieurs villages du secteur Kara, territoire de Bulungu. Nous sommes là dans la province du Kwilu. Les symptômes sont principalement des vomissements, des maux de tête et de ventre. C'est en tout cas ce que rapporte le député national Jacques Ilunga Openi, qui s'est entretenu avec le médecin directeur du centre de santé de référence de Moutoy. Autre conséquence, révèle-t-il encore, cette situation crée la panique au sein de la population, occasionnant le déplacement massif des familles vers le territoire voisin d'Idiofa et ses environs. Face à cette situation, les députés nationaux Jacques Ilunga Openi appellent les autorités gouvernementales, notamment le ministre de la Santé, à prendre des dispositions nécessaires pour envoyer des équipes sur terrain en vue de prélever des échantillons pour analyse. Les députés Jacques Ilunga expliquent ce qu'il en est. Il est joint au téléphone par Plotin Yambinga.
Au niveau de notre circonscription électorale de Bulungu, c'est depuis vendredi que nous avons été saisis par notre point focal au niveau du groupement qui nous a tenu informés que le village Mukulumbiala est vidé de ses populations parce que il y a une maladie inédite qui est en train de décimer toute la population. À ce jour, nous pouvons confirmer de manière formelle, parce que ce sont les informations qui nous ont été confirmées par le médecin directeur des centres de référence de Moutoy, notamment le médecin directeur Ndikisa Jean-Claude, qui nous a confirmé que depuis 19 jours, il y a déjà 14 cas de décès. Et la population se vide. Les gens sont en train de fuir pour aller trouver refuge au niveau des villages voisins. C'est le danger, c'est quoi? Si c'est une pandémie qu'on ne sait pas l'origine, alors ça risque d'être dangereux pour dirigeance. Les autorités politico-administratives, l'État congolais doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour envoyer les équipes sur terrain et savoir qu'est-ce qu'il y a exactement comme situation. Mais la situation est très grave et très préoccupante. Il va falloir trouver des mesures dirigeantes pour que cette situation soit tirée au clair.
Nous avons tenté de joindre le médecin chef de la zone de santé de Bulungu, mais nos tentatives n'ont pas abouti. Le ministre honoraire de la Santé du Kwilu, Dr. Bena Mutoy, vient de confirmer aussi l'information, évoquant lui une vingtaine de morts déjà enregistrés. C'est donc un dossier à suivre. Santé encore, nous allons à Mongbalu, épicentre de la maladie à virus Ebola en Ituri, là où tout a commencé. Sur place, les efforts de sensibilisation contre l'épidémie commencent à porter des fruits. Après plusieurs semaines marquées par la méfiance et la résistance d'une partie de la population, de plus en plus de personnes se rendent désormais volontairement à l'hôpital dès l'apparition des premiers symptômes. Il y a encore 2 à 3 semaines, les équipes sanitaires enregistraient en moyenne 15 décès communautaires par jour. On en compte moins aujourd'hui, nous dit Jean-Claude Lokidile.
Selon le médecin directeur de l'hôpital général de référence de Mongwalu, le docteur Richard Lokoudou, ce chiffre est aujourd'hui tombé à environ 4 décès quotidiens, signe que les malades consultent plus rapidement. Cette évolution se reflète également dans les admissions, alors qu'auparavant, le centre de traitement recevait 3 à 4 cas confirmés par jour. Il accueille désormais près de 10 cas quotidiennement. En moyenne, 20 cas suspects sont admis chaque jour et près de 60% d'entre eux sont testés positifs à Ebola. Une trentaine de patients confirmés sont actuellement pris en charge. Le docteur Richard Lokoudou attribue cette amélioration aux campagnes intensives de sensibilisation menées sur le terrain, ainsi qu'aux mesures annoncées récemment par le ministre de la Santé, Roger Samuel Nkamba, notamment la gratuité des soins et la disponibilité des médicaments.
Nous appelons la population à faire confiance au personnel médical qui prenne en charge les cas. parce que la prise en charge elle est nettement améliorée. Il y a lieu vraiment à appeler la population à ne pas rester à la maison. Venir tout droit à l'hôpital, moins encore se faire des automédications.
Pour les équipes médicales, cette évolution témoigne des changements encourageants, réduit les décès à domicile et contribue à freiner la propagation de l'épidémie. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Capi.
De nouveau dans la capitale, une agence humanitaire dénommée l'Human Pactis Humanitas, LPH, a lancé officiellement samedi dans la commune de Lancelle son programme d'assistance aux malades sans assurance médicale. Cette organisation a signé des accords avec 8 structures médicales ici à Kinshasa, dans des hôpitaux et cliniques privées pour administrer des soins médicaux aux souscripteurs de cette assurance médicale à moindre frais. Il s'agit ici d'une mutuelle de santé conçue pour répondre à la problématique d'accès de soins de santé en milieu urbano-rural. C'est ce qu'explique Guerlage Kasserika, manager et directeur général de l'Human Pactis Humanitas. Il explique comment adhérer au micro d'Askazik Matero.
La première étape pour adhérer à cette mutuelle de santé, c'est de se sentir concerné. De deux, tu vas passer à la direction pour prendre ton adhésion gratuitement, sans payer. Troisièmement, tu vas demander qu'on t'accorde une carte d'accès à l'hôpital. C'est cette carte d'accès qu'il faut acheter à 23 000 francs, soit 10 dollars. Et après cela, étant que membre de la mutuelle considérée, on va voir à travers la zone de santé de votre adresse, on va maintenant vous envoyer dans l'hôpital partenaire afin de commencer à avoir les soins. Mais alors, lorsque vous faites l'adhésion, vous devez choisir la catégorie des membres à laquelle vous voulez faire partie. Tous les membres bénéficient de consultations médicales, des examens de laboratoire, mais aussi des soins médicaux ainsi que des hospitalisations.
L'actualité, c'est aussi la réaction de l'Église catholique au sujet de la Constitution. Alors que le débat autour de la loi sur l'organisation du référendum et d'une éventuelle révision constitutionnelle continue de polariser la classe politique congolaise, la Conférence épiscopale nationale du Congo met en garde contre les risques d'une aggravation des tensions dans le pays. Dans leur message intitulé « La nation est en danger », dressant nos fronts et prenant le plus bel élan, publié samedi, les évêques catholiques rejettent toute réforme constitutionnelle. Ils la jugent inopportune, notamment dans le contexte sécuritaire et politique actuel. Les prélats appellent le président de la République au respect de l'ordre constitutionnel afin de préserver la stabilité du pays et de favoriser le dialogue. Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la SANCO, est joint par Grace Amzati.
L'environnement sécuritaire est déjà ce qu'il est, électrique. Les tensions politiques ont de plus en plus de connotations ethniques et tribales. Et considérant l'importance du pacte républicain qui est scellé dans les matières verrouillées par l'article 220, les évêques redoutent que le pays tombe dans une situation ingérable. Ce n'est pas la première fois que les évêques membres de la SENCO rappellent la nécessité de respecter l'ordre constitutionnel. Et si vous lisez bien, les recommandations faites aux uns et aux autres, ce sont les mêmes recommandations faites au pouvoir ancien. Pour la population, les deux recommandations sont les mêmes. Donc, pour les évêques, comme pour les CC d'ailleurs, la solution, c'est le dialogue dans l'esprit du pacte social.
En réaction, le député national Joseph Koy Wembo, élu de Katakokombe dans la province du Sankuru et rapporteur adjoint de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale, dit reconnaître à tout citoyen ou à toute organisation le droit d'exprimer son point de vue sur une question d'intérêt national. Cependant, ce cadre de l'Union sacrée estime qu'il n'appartient pas à la SENCO d'apprécier l'opportunité ou l'urgence des réformes constitutionnelles. Il s'agit pour lui d'une prérogative du pouvoir public. Il appelle par ailleurs les Congolais à soutenir des réformes institutionnelles qu'il juge nécessaires au renforcement de la souveraineté du pays. Joseph Koy, dans des propos recueillis par Grace Amzati.
Je ne vois pas par quelle alchimie la SENCO lie les réformes constitutionnelles à la balkanisation de notre pays. Je me suis posé une question majeure. Depuis que notre pays fait face à l'agression rwandaise, quelle est l'initiative majeure mise en place par la SENCO pour accompagner les efforts du chef de l'État ou du gouvernement pour résorber la crise sécuritaire à l'est du pays? Hormis ces fameux dialogues qui semblent être un prêt-à-porter, qui veut être imposé au gouvernement, au mépris justement des milliers de morts causés par la rébellion de de l'AFC. Je pense qu'à un moment donné, il faudrait que notre peuple comprenne qu'il est temps de pouvoir mettre fin à toutes les velléités du Rwanda qui utilise ses vassaux en République démocratique du Congo. C'est le moment d'accompagner le chef de l'État pour que, ensemble, nous puissions mettre en place un dispositif constitutionnel qui permet à notre pays d'être véritablement souverain.
L'heure de vérité a sonné ce matin pour les finalistes du secondaire candidats à l'examen d'État 2026 dans tout le territoire national, y compris dans les centres hors frontières. Ils affrontent donc cette session ordinaire dès ce lundi 22 juin, c'est jusqu'au jeudi. La ministre d'État en charge de l'éducation nationale a déjà annoncé les couleurs. Raissa Malo a confirmé la tenue de ces examens dans un communiqué parvenu samedi à Radio Capi. Ces épreuves nationales, il faut le souligner, marquent la fin des études secondaires et ouvrent de nouvelles perspectives aux candidats, notamment l'accès à l'enseignement supérieur et universitaire. Explication avec Blaise Ondongala.
Dans son communiqué, la ministre d'État à l'éducation nationale invite les candidats à aborder ces examens avec sérénité, confiance et intégrité. Raissa Malo insiste sur le fait que la RDC a besoin de citoyennes et citoyens responsables, patriotes et capables de contribuer à son développement durable. Selon elle, l'éducation doit demeurer un espace neutre, protégé et respecté. Aucun conflit armé ne peut justifier qu'un enfant soit empêché de présenter ses examens dans le calme, la sérénité et la dignité. La ministre remercie également les partenaires pour leur appui logistique dans l'acheminement des malles d'items vers les zones sous occupation. Elle souligne cependant que cet engagement permet aux enfants, y compris dans les contextes les plus difficiles, de faire valoir leurs droits à l'éducation et à l'évaluation. Au-delà de l'organisation matérielle des épreuves, Raissa Malo indique que son ministère poursuit la modernisation de toutes les chaînes de l'examen d'État, en particulier les phases de traitement et de correction des copies. Comme en 2025, c'était 17 marque une nouvelle avancée dans la digitalisation du processus. 4 centres d'escanage supplémentaires sont désormais opérationnels à Gemena, à Kisangani, à Butembo et à Chikapa.
Merci Blaise Ondongala. Alors comment se présente le moral des élèves de Kinshasa maintenant qu'ils affrontent ces épreuves? Nous avons rencontré quelques-uns d'entre eux hier dimanche, donc un jour avant le début de l'examen d'État. Les uns, vous allez les entendre, sont stressés par l'inconnu et quelques matières comme les mathématiques. D'autres plus confiants et optimistes ont mis sur leur parcours scolaire et leur bonne préparation. Suivez les propos de ces candidats recueillis par Christian Makasinga.
Je suis finaliste de l'école Maman Aboussawa. J'ai fait l'option science. Je suis un peu stressé, inquiet aussi en même temps. Et je ne sais pas qu'est-ce qui m'attend là-bas.
Moi, je me sens bien. Je me sens serein et conscience en ce que j'ai appris à l'école et en mes capacités, tout simplement. Mais jusque-là, je ne stresse pas du tout. Je suis très sereine. Je crains vraiment, vraiment, vraiment les maths. J'ai trop peur de m'embrouiller dans les calculs ou de fauter à cause d'un signe.
Je suis du collège Don Bosco et je suis en sciences. Dans les matières qui me font le plus peur, j'ai la géométrie analytique, c'est une branche de la mathématique, deux branches de la culture générale, l'histoire et la géographie.
Élève en quatrième sciences au groupe scolaire Saint-Vincent-de-Paul.
J'y mélange un peu tout, stress, excitation et envie que ça finisse. Enfin, ce que j'attends de ces examens, c'est réussir d'abord, mais surtout rendre fiers mes parents.
Révisez bien et confiance en vous et confiance en ce que vous avez appris à l'école et donnez le meilleur de vous-même surtout.
Un problème tout de même dans ce dossier, examen d'État 2026. Les professionnels de l'enseignement mobilisés pour ces épreuves nationales au Nord Kivu grincent des dents. Ils réclament leur argent. Depuis le lancement des examens cette année, ils affirment n'avoir toujours pas reçu le moindre paiement. Et pourtant, tous espéraient que le gouvernement allait honorer ses promesses avant le coup d'envoi de la grande session de l'examen d'État de ce lundi. Le syndicat national des professionnels de l'enseignement note d'ailleurs que ces hommes et ces femmes travaillent par patriotisme. Le syndicat dit espérer que le gouvernement va débloquer leurs fonds dans le plus bref délai. Suivez à ce sujet le secrétaire provincial de ce syndicat, Exaucé Bandou Bahouma, dans ses propos recueillis par Rosalie Sawadi.
Jusque-là, la petite session, l'ENAFEP, les Tenazosp et bientôt la grande session qui va débuter ce lundi 22 juin 2026. Toutes ces épreuves ne sont pas encore payées. Voilà pourquoi nous interpellons la conscience du gouvernement pour pouvoir s'impliquer en fait de délivrer tous ces montants et faire réjouir encore nos intervenants qui se donnent corps et âme, peu importe le manque de motivation, le manque de transport pour ceux qui ont été affectés très loin. Certains inspecteurs ont été ramenés à Walikale, Kitamasi vers Walikale, c'est plus de 250 kilomètres. Mais ils viennent de se donner pour y aller. Les autres se sont emprêtés pour qu'ils donnent honneur à ces épreuves. Voilà pourquoi nous demandons une fois de plus au gouvernement de tout faire, en fait de faire respecter aussi ces gens qui viennent de montrer leur patriotisme et de se sacrifier, peu importe tous les risques, mais ils viennent de se donner. Voilà pourquoi nous demandons une fois de plus à toutes ces autorités de tout faire pour honorer ces intervenants.
Et pire.
Actualité internationale.
En international, le Parti de la Prospérité PP du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a remporté une victoire écrasante aux élections législatives du 1er juin. C'est ce qu'a annoncé hier dimanche la commission électorale, lui attribuant près de 90% des sièges. Selon Africa News qui le rapporte, Abiy est à la tête de l'Éthiopie depuis 2018 et fait l'objet de critiques croissantes en raison de son autoritarisme grandissant, ce qui contraste avec ses premières années durant lesquelles il avait remporté le prix Nobel de la paix pour avoir rétabli les relations avec l'Érythrée voisine.
L'invité.
Il y a quelques jours, nous avons diffusé un entretien avec l'inspecteur général à l'éducation nationale au sujet de l'examen d'État 2026 qui vient de commencer. Hubert Kimbonza nous avait rassuré que tout était prêt, notamment les cahiers des thèmes qui étaient déjà acheminés dans les provinces éducationnelles et ce, au cadre du ministère de l'Éducation nationale, indiquait également avoir pris des dispositions pour que ces épreuves certificatives se déroulent dans le respect des mesures de prévention de la maladie à virus Ebola. Nous vous proposons encore une fois d'écouter l'inspecteur général à l'éducation nationale en ce jour du début de l'examen d'État, Hubert Kimbonza s'entretient avec Blaise Ndongala.
Bonjour monsieur l'inspecteur général.
Bonjour monsieur le journaliste Blaise Ndongala.
À quelques jours du début de la session ordinaire de l'examen d'État 2026, comment vont les préparatifs?
Merci beaucoup monsieur le journaliste. Comme vous le savez, notre ministère a vocation d'évaluer de manière pédagogique les compétences de nos apprenants. Il y a aussi la toute première vocation qui est celle de former nos jeunes enfants du préscolaire en passant par le primaire jusqu'au niveau du secondaire général normal et secondaire technique. Et en ce moment, toutes les dispositions ont été prises. Nous avons travaillé d'arrache-pied pour que, à la date du 22 juin, que les hostilités commencent, celle en rapport avec la première journée de la session ordinaire de l'examen d'État 2026.
Toutes les dispositions sont prises, donc les cahiers des thèmes sont arrivés dans toutes les provinces éducationnelles.
Ne vous inquiétez pas, au moment où je vous parle, notre imprimerie n'est restée qu'avec tout ce qui est de la ville-province de Kinshasa. Aucun cahier des thèmes d'élèves de province autre que la ville-province de Kinshasa n'est avec nous. Donc tous les cahiers sont en province, toutes les malles contenant les cahiers des thèmes sont en province et nous rassurons les parents, nous rassurons les candidats et candidates, nous rassurons tous les partenaires éducatifs que le ministère de l'Éducation nationale, à travers son service technique, a mis en œuvre tout ce qui est de son mieux pour que aucun élève qui sera au centre ne rate son examen.
Les années se suivent et ne se ressemblent pas. Quelle est la particularité de l'édition 2026?
Ce qui est important à découvrir est que le ministère est en train d'innover. Toutes ces innovations, vous les saurez quand le numéro 1 de notre ministère va prendre la parole pour lancer de manière officielle la session 2026.
Il y a quelques jours, vous avez clôturé les TENASOSP. Quel bilan dressez-vous de ces épreuves?
Un bilan globalement très satisfaisant. Nous avons connu effectivement cette année des moments difficiles à cause de deux aspects qui sont, un, l'insécurité à l'est de la République dans des parties sous occupation. En deuxième lieu, nous avons bien sûr l'épidémie d'Ebola. Les deux éléments sont venus quelquefois changer notre manière de travailler. Et ça nous a demandé beaucoup plus d'efforts à conjuguer qui n'ont pas été faits les années précédentes. À part ce que nous avons fait d'habitude ou ce que nous faisions d'habitude, mais nous avions beaucoup plus augmenté des conditions de prévention contre l'épidémie ou en renouvelant, en rappelant les différents gestes barrières que tout le monde devait observer, que ce soit au centre de passation ou à la maison. Et pour ce qui est aussi des zones sous occupation, nous avons eu à travailler avec des partenaires qui nous ont aidés Et là, nous avons atteint l'objectif, c'est-à-dire que tous les centres en rapport avec l'ENAFEP et les TENASOSP ont ouvert.
Ici à Kinshasa, notamment à Bandalungwa, il y a certains candidats qui se sont plaints le fait de passer l'examen des mathématiques sans brio. Ils étaient obligés de calculer avec leurs mains. Et puis à l'IPN, il y a une école où des candidats se sont présentés avec des macarons sans photo. Qu'en dites-vous?
L'éducation est l'affaire de tous. Il y a l'État congolais, il y a le gouvernement, il y a le ministère, il y a les administratifs et à travers nous, il y a des instructions. Ces instructions doivent être respectées par les gens qui sont à l'intérieur du ministère, mais aussi par tous les partenaires. Si on ne fournit aucun effort de la part des parents ou de l'école, qu'est-ce que l'inspection va faire? Le deuxième aspect, c'est celui qui est en rapport avec les coins où les enfants n'ont pas reçu des brillants. Effectivement, ce sont des cas de bévues comme ça que nous sommes en train de sanctionner.
Monsieur Hubert Kimbonza, nous vous disons merci.
C'est à moi de vous dire grand merci.
Hubert Kimbonza, inspecteur général à l'éducation nationale, interview réalisée, je rappelle, la semaine dernière, quelques jours donc avant le début de cette session ordinaire de l'examen d'État qui a démarré aujourd'hui. Fin de ce journal, Lievin Bouinga l'a supervisé et coordonné, la mise en nom des signés Alain Goy. Merci de votre attention et excellente semaine.